Lire avec moi deux passages, l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 41, Luc chapitre 19, le verset 41, nous lirons jusqu'au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Et dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, dès le premier verset, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et le verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le dernier cantique que nous avons chanté dit « En ton temps ». En ton temps, eh bien, tout s'accomplit. Alléluia. Et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, vous parler de la notion importante, hein, il y a une place importante dans la Bible à cette notion, la notion du temps. Du temps. Une sœur a cité dans sa louange tout à l'heure que le Seigneur tient les temps et les circonstances dans sa main. Le temps, lorsque Jésus s'approche de Jérusalem, on l'a lu ensemble, il se produit quelque chose qui a surpris certainement ses disciples. Il s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Il a pleuré sur cette ville et le tableau ne présentait extérieurement rien de particulier. Les gens vaquaient à leurs occupations. Vous voyez, les femmes étaient là en train de peut-être laver quelques linges et les autres travaillaient peut-être en tant qu'artisans. C'était la banalité quotidienne, mais les regards du Seigneur Jésus sont allés plus loin que la façade et ils ont discerné dans l'esprit de cette population un drame qu'il va lui-même définir de la manière suivante. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et il y a un temps providentiel merveilleux que Dieu offrait à cette société de Jérusalem en envoyant le Messie, un temps à saisir, mais ils ne l'ont pas saisi et cela a suscité une émotion dans le cœur du Seigneur. Alors je voudrais vous parler de cette notion du temps. Le temps, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, a intrigué l'être humain. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, représentaient le temps sous la forme de divinités, notamment trois divinités qui représentaient trois aspects du temps. Il y avait le dieu Chronos. Chronos, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui fait que j'ai perdu mes cheveux, que j'ai pris quelques rides, que je suis devenu quatre fois papy. J'arrive pas à le croire encore parce que j'ai l'impression qu'avant-hier, j'avais 20 ans. Hein. C'est Chronos, c'est le temps linéaire. On aimerait le retenir, mais il est inexorable dans son cours. C'est Chronos. Il y a des termes, par exemple, on dit de certaines activités qui nous prennent beaucoup de temps, que c'est chronophage. Hein. C'est le temps qui concerne nos agendas, notre planning. Écoutez, je ne sais pas, mais si vous voyez mon agenda, vous diriez, mais c'est pas possible, c'est un VIP, hein, lui. Pas du tout, je suis pas un VIP, je suis comme vous, je suis pris dans le tourbillon de Chronos. C'est le temps, hein, le temps qui passe tellement vite. Quand on a 7 ans, 8 ans, 10 ans, on a hâte de vieillir, hein, d'être comme des grands, mais à partir de 20 ans, voyez, on amorce une descente et on a beau appuyer sur le frein et tirer sur le frein à main, on y va. Hein. Il y a une période où on compte les choses par décennies maintenant. Hein. Tiens, je suis dans les 6, j'approche du 7. Hein. C'est Chronos. Il y a une autre divinité que les Grecs avaient imaginée et ce dieu-là s'appelait Aeon, le dieu Aeon, c'est le temps dans l'aspect des saisons, les périodes, les saisons. Il y a les saisons, j'en parlais tout à l'heure, de l'enfance, il y a la saison de la jeunesse, il y a la saison de l'ancienne jeunesse, donc la vieillesse, hein. Il y a des saisons, il y a des périodes. Il y a dans l'existence des périodes aussi. Il y a des périodes que le Seigneur cite d'une manière particulière. Il y a les périodes de servitude, par exemple. Son peuple d'Israël a connu un éon très douloureux pendant 450 ans en Égypte, esclave de Pharaon et assujetti à des maltraitances insupportable. Il y a des saisons et Dieu est attentif dans ta vie. Je ne sais pas quelle saison tu es en train de vivre. Peut-être est-ce la saison des larmes. Peut-être quelqu'un est en train de vivre une saison lugubre de solitude, d'incompréhension. Peut-être la page de ton existence que tu es en train d'écrire est un drame, quelque chose de pathétique. Tu es dans un temps peut-être de souffrance intérieure, morale, affective, insupportable. Alors Dieu est attentif à cela. La Bible nous dit que les regards de Dieu sont tournés particulièrement vers ceux qui ont l'esprit abattu, le cœur contrit, affligé. Et dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe le prophète, Dieu ordonne à son prophète d'annoncer une bonne nouvelle. Consolez mon peuple, dites-lui que sa servitude est finie. Dites-lui qu'il y a une nouvelle saison que je prépare pour lui. Dites-lui que le Dieu qui tient les temps et les circonstances que je suis ordonne maintenant une nouvelle saison d'arriver, un temps de consolation, un temps de mise au large. Et je prie pour que, au cours de ce culte, tu quittes cette période triste et accablante que tu traverses pour entrer dans une nouvelle saison. Amen. Pour entrer dans une page nouvelle que Dieu en personne va écrire et qu'il va remplir de choses glorieuses, d'expériences, de miracles Et pourquoi ce matin, ce ne serait pas la saison de la guérison pour un malade parmi nous? Et pourquoi le Seigneur ne poserait pas sa bonne main sur ta santé et d'un mot, un seul de sa bouche, faire cesser tes souffrances et te donner un fonctionnement physiologique rétabli, que le Seigneur soit béni. Amen. Et Yon, c'est les saisons, c'est les périodes. Et puis, il y avait un troisième dieu de mythologie, c'est le dieu Kairos. Le dieu Kairos, qui, dans l'esprit de ces Grecs, représentait les, entre guillemets, les coïncidences, la concomitance de deux ou trois ou plus d'événements. C'est donc un temps particulier, un temps spécial, un temps calculé. Avant, c'est pas Kairos, après, c'est plus Kairos, mais à l'instant T, il y a un temps voulu de Dieu. C'est Kairos, c'est l'opportunité de Dieu. Et c'est ce que Jésus désigne lorsqu'il dit « Mais tu n'as pas connu le temps, le Kairos, le temps où tu as été visité. » Vous voyez, c'est ce culte, par exemple, on peut le vivre comme un culte de plus. C'est Chronos. Mais on peut aussi le vivre comme un rendez-vous de Dieu, comme une opportunité voulue, planifiée par le Seigneur qui est souverain. Une opportunité à ne pas manquer. Faut saisir. Le Kairos, c'est un temps furtif, très ponctuel, qu'il faut saisir. Ne passe pas à côté, ce matin, ne passe pas à côté du temps que Dieu t'offre. Saisis-le afin d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Voyez, on a lu dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour voilà, naître, mourir, jeter des pierres, ramasser des pierres. Ça, c'est la roue qui tourne, c'est le chronos qui défile. Et puis au verset 11, il est dit, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça, c'est le kairos. Il y a le temps de Dieu. C'est une marque d'amour divin, merveilleux. Que Dieu prenne le temps, la peine de nous offrir des opportunités. C'est parce qu'il s'intéresse à nous. C'est parce qu'il ne veut pas que nous demeurions dans le triste état qui est le nôtre. Alors, il nous offre un temps, une occasion, une opportunité. Eh bien, il faut le saisir. Bartimée, même aveugle, a quand même vu qu'il était en train de vivre un temps à ne pas rater. Cet aveugle mendiant sur ce sol poussiéreux, là, au sortir de Jéricho, quand il a entendu qu'il s'agissait de Jésus de Nazareth qui était en train de passer, il a compris qu'il fallait saisir ce temps. Fils de David, aie pitié de moi! Et il a insisté malgré ceux qui voulaient le faire taire. Et le Seigneur l'a entendu, vous connaissez la suite. L'aveugle a été non seulement guéri, mais son âme s'est attachée au Seigneur. Il a suivi Jésus sur le chemin. Que Dieu soit béni. Jésus passe ce matin. Le Seigneur que nous avons chanté, loué, se plaît à nous visiter. Et cette visitation est une opportunité de Dieu. Saisis cette opportunité et que le combat qui est en toi puisse déboucher sur une belle victoire, que ton âme enserrée soit mise au large, que tes émotions soient rassurées, apaisées, Que le Seigneur soit béni. Voyez-vous, il y a ce verset que vous connaissez, que nous connaissons bien, dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, qui nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Une autre version dit ceci « Affranchissez-vous de la servitude qu'exerce sur vous le temps pour entrer dans le temps de Dieu. » Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous et moi, nous rencontrerons toujours cette dualité entre Chronos et Kairos. Il y aura toujours ce duel du temps qui voudrait nous accaparer et envahir notre quotidien, et puis le temps de Dieu dans lequel il nous invite d'entrer. On entend trop souvent « je n'ai pas le temps ». On arrive le soir d'une journée, on dit « oh, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible ». Eh bien, Chronos t'a volé ce temps. Et on voit la semaine défiler, « oh, je n'ai pas saisi l'opportunité pour témoigner de Jésus à tel collègue dont j'ai appris que son enfant est malade. Je n'ai pas eu le temps, tellement accaparé par les activités du quotidien. » Alors, l'Écriture nous dit « affranchissez-vous de la servitude de Chronos ». C'est sûr qu'il faut assumer le quotidien, c'est sûr qu'il faut travailler. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut devenir comme des ermites hein, au sommet d'une montagne là-bas dans les Alpes du Sud, non. Mais il faut que nous soyons vigilants pour préserver la disponibilité nécessaire pour entrer dans le kairos de Dieu. Une mamie, une femme de prière, dans le sud-ouest de la France, était là en train de faire sa vaisselle. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est une femme de prière. Avant de commencer sa journée, comme chaque jour, elle avait eu son kairos, son rendez-vous, le temps particulier avec son Dieu. Alors bien sûr, quand on commence la journée comme ça, il n'est pas étonnant que nous expérimentions une inspiration, une directive divine. Et alors qu'elle est en train de faire sa vaisselle, Dieu parle à son cœur distinctement. Et il lui dit, va maintenant sonner chez tes voisins d'un jeune couple qui venait d'avoir un bébé. Ça alors, elle obéit au kairos de Dieu. Elle arrête, elle se sèche les mains et elle va, elle sonne. La jeune épouse ouvre et la mamie lui dit « Écoutez, je suis votre voisine, j'étais en train de faire la vaisselle et je suis croyante et Dieu m'a dit qu'il me fallait sonner à votre porte, alors me voici. » La jeune femme se met en larmes. Elle fait entrer la mamie. Elle lui explique le drame que son foyer est en train de vivre. Le bébé qu'ils attendaient avec tellement d'empressement est né aveugle. Le bébé était aveugle. Elle lui raconte cela. La mamie, très simplement, lui parle du Dieu des miracles et lui propose que le pasteur vienne et qu'il prie pour le foyer et aussi pour le bébé. Et la jeune femme dit « Je vous répondrai après que mon mari soit rentré du travail. » Son mari était professeur. Il était à une époque où le socialisme athée était très très actif, il était socialiste, athée, complètement incroyant. Mais le soir, quand le mari rentre, l'épouse lui partage cet événement et dans la détresse, bien sûr, le mari dit « Oui, que le pasteur vienne prier. » Le pasteur prie, frères et sœurs, le bébé est guéri. Ses yeux s'ouvrent et il voit. Instantanément, le bébé est guéri. Le jeune couple se convertit au Seigneur. Le papa est appelé à servir Dieu. Il a eu une carrière pastorale bénie, féconde. Il est aujourd'hui dans la présence et dans la gloire de Dieu. Le bébé que Dieu a guéri, a grandi, s'est converti. Dieu l'a appelé à être pasteur et il est encore vivant aujourd'hui dans le sud-ouest de la France parce qu'une mamie a discerné le kairos de Dieu, l'opportunité de Dieu. Mon frère, ma sœur, le surnaturel de Dieu peut faire irruption dans ton quotidien apparemment banal si tous les jours je me place devant le Seigneur et je lui recommande les activités de la journée. Certainement, certainement, il va y avoir d'une manière ou d'une autre une direction de Dieu, quelque chose du ciel qui va donner à ma journée une dimension différente. Hein. Gloire à Dieu, différente. Je dirais que le kairos de Dieu se trouve toujours sur le chemin de l'obéissance à Dieu. L'obéissance, vous savez, cette sensibilité de l'âme, cette souplesse qui consiste à dire « Oui, Seigneur, l'obéissance, l'obéissance ». Vous voyez, un jour, il y a un tout jeune berger, un ado, hein, qui gardait les brebis de son père, le père le fait convoquer, « Viens, j'ai une mission à te confier. Tu vas porter des fromages à tes grands frères soldats là-bas. Ils sont dans l'armée de Saül. Allez, convertis-toi en livreur de fromages. Apporte les fromages. » Et le petit David aurait pu répondre différemment de ce qu'il a répondu. David, moi, je ne suis pas je suis pas le larbin de mes frères. Hein. Si c'est pour me faire insulter, parce que je les connais, hein, les gaillards. David aurait pu dire, mais moi, papa, moi j'attrape le lion, je l'aplatis. Hein. Et quand il y a un ours qui vient chiper une de tes brebis, je cours derrière l'ours. Nous, on aurait couru devant, mais lui... Je cours derrière l'ours, je l'attrape, je le frappe et je ramène ta brebis. Moi, je ne suis pas un livreur de fromage. Voyez, la réaction charnelle, orgueilleuse, etc. Il aurait pu être vexé, mais non, David n'est pas susceptible. Je sais qu'ici, il n'y en a pas de susceptible, c'est sûr. David obéit. Papa, il n'y a pas de problème. Et en obéissant, pour livrer les fromages à ses frères, il ne le sait pas encore, David entre dans le kairos de Dieu. Il ne sait pas ce qui va se passer là au bout de son obéissance. Il arrive, il livre ses fromages comme d'hab, ses grands frères le narguent et le remballent, ok. Et puis au moment de retourner, il entend la voix rauque de Goliath, le Philistin, le géant, qui lance un défi à l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas ? Donnez-moi votre champion et celui qui va gagner aura la victoire, etc. Et David, dit, mais ils vont y aller, oui ou non ? Et il pensait que ses grands frères, justement, ils seraient les premiers à y aller. Vous remarquerez dans ce récit, vous savez, que les armées d'Israël poussaient des cris de guerre. On va le manger. Vous voyez, Sauf que quand c'était la mise en pratique, il n'y avait plus personne. Vous voyez, moi, je prie le Seigneur pour que ma foi ne soit pas une foi de slogan. Oh, alléluia! Et puis, mais quand je suis dans le cœur de l'épreuve, c'est là que la teneur de ma foi va démontrer que je suis vraiment enraciné dans les promesses de mon Dieu. Ils avaient les slogans, mais pas la mise en pratique. Et puisque personne n'y allait, David va tirer la manche là, de Saül en disant « Moi j'y vais, hein. Moi j'y vais. Je ne vais pas laisser cet incirconcis insulter mon Dieu. Je vais relever le défi. » Et vous savez de quelle manière le Seigneur s'est glorifié avec une pierre polie au torrent. David a terrassé le géant Goliath et c'est avec l'épée du géant qui lui a coupé la tête. Parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et alléluia, le Seigneur sort toujours vainqueur et glorifié de toutes les circonstances et de tous les défis. Que Dieu soit béni. Mais au départ, il a fallu de l'obéissance. David a obéi. Moi, le vendredi soir à la prière dans mon église, quand mon pasteur, M. Quintin, disait « Demain, samedi, il nous manque des gens pour le ménage », je courais vers la responsable, c'était une mamie sicilienne, je disais « Sœur, demain j'y suis, voilà. » Quand il y avait quelques dizaines de milliers de prospectus à distribuer, à l'époque c'était dans les boîtes aux lettres comme ça, hein, ben hop, on y était Et le chemin de l'obéissance, mon frère, ma sœur, va te placer dans les bonnes dispositions pour vivre le kairos de Dieu. La Bible nous dit Jésus allait de lieu en lieu. Vous avez lu ce verset. Mais ce verset ne signifie pas qu'il allait d'une manière aléatoire. Tiens, je vais aller ici ou bien plutôt ici. Non, chaque lieu... À l'instant T que les pieds de Jésus foulaient, correspondait à un kairos. Il fallait qu'il passe en Samarie, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 4. Le Seigneur sent une urgence là à l'intérieur de son cœur. Il faut que j'aille en Samarie. Et là, il arrive à Sichar. Il est midi. Il s'assoit sur la margelle du puits. Au moment où il vient de s'asseoir, une Samaritaine arrive. C'est le kairos de Dieu. Merci Seigneur. La Samaritaine découvre le Messie, elle se convertit, elle devient une témoin du Sauveur, elle mobilise tout le village. Jésus reste encore un temps pour parler, enseigner. Et les habitants disent, nous savons maintenant qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oh là là, il a fallu un kairos de Dieu. Dieu travaille ainsi. Tu n'es pas appelé à subir le tourbillon de Chronos. Sors-toi de la servitude de Chronos et entre dans le kairos de Dieu. Et chaque jour que Dieu te donne... Commence-le en invoquant le Seigneur et en lui disant « Me voici, dirige, inspire, conduis le programme de la journée » et qu'ainsi nous puissions être des instruments de bénédiction pour notre entourage. Le kairos de Dieu, je l'ai mentionné dans mon introduction, Jésus le présente comme étant un temps de visitation. Gloire à Dieu. Je prie pour que ce matin, nous vivions un temps particulier de visitation. Alléluia. La visitation et l'attouchement du Seigneur engendreront toujours des changements glorieux. Amen. Je prie pour que tu repartes de ce lieu différent que l'état dans lequel tu étais en y venant. Que tu puisses repartir vainqueur. Amen. Que tu puisses repartir avec une recrudescence de la flamme sacrée dans ton cœur, que tu puisses repartir avec un courage renouvelé. Je me souviens de ce mardi soir où une de nos jeunes est venue être soignante, elle était harassée, et elle m'a dit, Jean-Marc, je suis venu parce que si je venais pas, il n'y avait pas de musique, c'était notre guitariste, une petite église au Puy-en-Velay, n'est-ce pas? Et je suis venu, mais j'étais à un doigt de ne pas venir. Je suis démonté, détruit de fatigue, je suis harassé. Elle est venue et elle a vécu un kairos de Dieu. À la fin de la réunion, elle avait le visage rayonnant et elle m'a dit, c'est merveilleux. Je me sens la force de repartir à l'hôpital, non pas pour être soigné, mais pour soigner les autres. Hein. Je peux rattaquer une journée. Le Seigneur l'a visité. Que le Seigneur te visite ce matin, alléluia. Qu'il visite ta santé, qu'il visite ton âme, qu'il visite tes pensées et qu'il les mette en ordre. Qu'il visite ta famille, qu'en rentrant tout à l'heure chez toi, tu puisses trouver et constater que Dieu est intervenu, qu'il visite une circonstance problématique devant laquelle tu te sens tellement dépassé et démuni, que le Seigneur te visite et que sa visitation engendre le miracle. Alléluia. Je crois que dès l'instant où deux ou trois se réunissent en son nom, Dieu veut visiter et veut marquer l'instant que nous partageons de son empreinte glorieuse. Alléluia. Amen. Et je prie pour que les âmes qui vont venir de semaine en semaine au milieu de nous puissent d'elles-mêmes dire « Dieu est au milieu d'eux !» Dieu est au milieu d'eux. Alléluia. Je me souviens de cet homme qui n'était pas converti et qui menait la vie dure à son épouse, qui, elle, était une chrétienne fidèle. Et puis, cet homme a accepté un dimanche de venir à la réunion, l'après-midi, n'est-ce pas? Alors, c'était un dimanche particulier, parce que nous avions ce dimanche-là, entre midi et 16 heures, un temps de jeûne et de prière. Alors, on était en train de prier, et eux, ils sont arrivés une demi-heure à l'avance, par rapport à 16 heures, donc 15h30, Alors ils se sont assis et nous n'avions pas fini de prier. Nous étions en train de prier. Là, je me rappelle comme si c'était hier. D'un coup, on entend les sanglots bruyants de quelqu'un qui perturbe le déroulement de ce temps de prière. On se retourne. C'était ce monsieur-là. Une grande armoire, trois portes. Ses grosses épaules tressautaient de sanglots. Il était convaincu de péché avant même que la réunion n'ait commencé. Parce que le Seigneur l'a visité, le kairos de Dieu. Je prie pour que nous puissions le vivre, ce glorieux kairos, et que notre vie chrétienne puisse être éclairée, enrichie par la dimension du miracle de Dieu. Il n'est pas suffisant de chanter « Tu es le Dieu des miracles ». C'est bon de le chanter. Mais Dieu veut que nous le vivions. Dieu t'appelle à vivre son miracle. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner un instant, prier ensemble et demander au Seigneur « Oh, visite-moi, visite-nous ». Visite mon foyer, visite mes enfants, visite cette situation scabreuse que j'ai bien du mal à gérer. Seigneur, visite-nous ce matin, alléluia, gloire à Dieu. Prie mon frère, prie ma sœur, expose ton âme, expose ta vie, expose ton problème à l'action toute puissante du Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vais demander peut-être au frère Guerrero de bien vouloir prier, s'il vous plaît, pour que Dieu nous visite, Dieu nous bénisse les uns les autres. Alléluia. Merci, Seigneur.